Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans mon jazz. Je suis hors les murs, même hors Paris, je viens d'arriver à Amiens. Amiens, jolie ville du Nord, je suis en face de la cathédrale qui est monumentale. Et je viens à Amiens pour une interview toute particulière, comme d'habitude, avec le Label Bleu. Le Label Bleu qui est un bijou rare que nous avons la chance d'avoir en France. Un label de jazz qui existe depuis 1987 ou 86, je crois, mais depuis bientôt 40 ans maintenant, et qui produit du jazz plutôt classique de base, de formation classique, maintenant avec du jazz contemporain, avec des grands artistes comme notamment Henri Texier, on en parlera un peu plus tard. Mais Henri Texier, un contrebassiste français de renom à l'international. Et du coup, on va aller interviewer le directeur des productions du Label Bleu, Benoît Delacaize, directement dans le studio. Donc voilà, une belle émission hors les murs, une belle interview. On est très content d'être à Amiens. Et puis moi, je marche. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé, on va peut-être rien entendre. Mais je marche depuis la gare vers le studio qui est au sein de la Maison de la Culture d'Amiens. Voilà, tout simplement. Je vous retrouve, à tout de suite. Petite interlude musicale avec le morceau Apache Woman de Henri Texier, bien sûr, sorti sur son dernier album An Indian's Life en 2023 sur le Label Bleu.
Thank you.
Mesdames et messieurs, j'avance toujours vers la maison de la culture d'Amiens et le label bleu. Et je voulais vous faire un petit point touristique sur Amiens, qui est au demeurant une ville très charmante. Ville du Nord, bien sûr, des briques rouges partout. Et des très beaux monuments, avec notamment cette cathédrale, qui est tout à fait monumentale, digne des plus belles cathédrales de ce monde. Je vous conseille de venir faire un tour à Amiens, rien que pour ça. Et bien sûr, déguster une bonne frite, une bonne friterie. Moi, ce sera le programme de ce midi après l'interview, aller à la friterie. Voilà, voilà. Et aussi, pour faire passer le temps, je vous mets un morceau que j'avais fait moi-même, un petit remix de justement Henri Texier, qui avait sorti un magnifique album Amir. Je sais plus l'année, mais c'était pas avec Label Bleu, c'était avec le label Eurodisc. Et j'ai fait un remix sur Ableton du morceau du même nom, Amir, que je vous fais écouter. C'était, je crois, le morceau qui a eu le plus de succès dans ce que j'ai pu produire dans mon passé de jeune créateur de musique. Allez, je vous embrasse, j'y suis dans quelques minutes. Vous êtes bien dans Mon Jazz, l'émission dédiée à la culture jazz sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Et comme je l'introduisais tout à l'heure, je suis arrivé au Label Bleu. Label Bleu, du coup, un label de jazz fondé à Amiens en 1986. Il appartient désormais à la Maison de la Culture de la ville, ville d'Amiens, bien sûr, dans le nord de la France. Le label produit de nombreux talents de jazz français et internationaux, notamment Henri Texier, Magic Malik, Vincent Segal ou encore Das Capital. Le label a ralenti ses productions à quelques sorties annuelles. Après des glorieuses années dans les années 80-90, le label a ralenti ses productions à quelques sorties annuelles, mais les disques de ces dernières années sont super. On pense notamment à Michel Portal et MP85 en 2021, David Krakauer et Mazel Tov Cocktail Party en 2022, Jidru et Fantôme en 2023.
Jidru. Didru, pardon, et Fantôme en 2023, Henri Texier, An Indian's Life en 2023 aussi, et dernièrement Rouge avec l'album Merveille, Vermeil, pardon, Rouge avec l'album Vermeil en 2024. Outre les artistes, ce qui fait une grande particularité du label bleu, c'est qu'il a un studio intégré. Intégré à la Maison de la Culture d'Amiens, un studio tout équipé. On a visité là avec Benoît la grande salle d'enregistrement qui fait plus de 130 mètres carrés, qui est magnifique, tout sur parquet, avec tout équipé, deux salles insonorisées, tout ce qu'il faut pour mettre les artistes dans les meilleures conditions pour enregistrer. Comme on disait avec Benoît, pour enregistrer en groupe, en live. Il y a de la place pour rentrer 20 musiciens facilement en même temps.
Possible.
Il est aussi équipé de logements pour les artistes, et ça c'est aussi une particularité. Il s'appelle le studio Gil Evans, du nom du pianiste canadien de jazz big band de l'au-delà, d'il y a un bout de temps. Et voilà donc le label bleu c'est un bijou français qui produit un jazz de formation classique mais avec des artistes très contemporains. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'y être accueilli par Benoît Delacaisse qui n'est autre que le directeur des productions du label depuis 2013 mais aussi conseiller à la programmation de la MCA, Maison de la Culture d'Amiens, depuis 2017 dans laquelle tu travailles depuis maintenant 2006,
C'est
n'est-ce
ça,
pas?
tout à fait.
Donc merci beaucoup Benoît de m'accueillir
Bienvenue.
et d'accueillir dans mon jazz et Radio Campus Paris au Label Bleu.
Merci d'être venu jusqu'à Amiens.
Oui bah écoute c'est pas Gare du Nord à Amiens ça se fait très vite et puis
Oui.
après 10 minutes à pied en traversant la très jolie ville d'Amiens, passant devant la cathédrale et on
Sous le
arrive
soleil.
on a sous le soleil et on arrive en porte à porte depuis Paris Centre. En 1h45 à la Maison de la Culture, donc faut pas hésiter s'il y a des programmations qui peuvent être intéressantes à venir à Amiens.
Exactement.
Benoît, première question, est-ce que tu peux nous décrire où nous sommes? Alors ici, là, dans le petit espace de l'interview, mais de manière générale.
Alors ici, on est de manière générale, on est donc dans la Maison de la Culture d'Amiens. La Maison de la Culture d'Amiens, c'est un bâtiment qui date des années 60, qui a été inauguré par André Malraux. On est dans une période où Malraux est ministre de la Culture et décide d'implanter comme ça dans les régions des grandes maisons, des cathédrales, hein, c'est lui-même qui dit ça, de la culture, dans lesquelles on peut assister à des spectacles qui à l'époque tournaient plutôt dans les grandes villes, les grandes capitales. Donc il va amener ça à Amiens, dans une ville qui était quand même très marquée par la guerre. Il va refaire venir ici le théâtre, la danse, la musique. Et puis cette maison, elle va avoir dans son ADN aussi la création, la production, le fait de diffuser des artistes internationaux et d'accueillir des artistes du monde entier. Voilà. Dans les années 80, il y a un personnage qui s'appelle Michel Horier, qui est de la région et qui va créer un festival de jazz à Amiens, dans lequel on va retrouver des artistes incontournables de la scène internationale, mais aussi toute une partie de la scène jazz française qui n'a pas forcément accès à des labels ou à des moyens de production. Et par extension, Michel Horier va se dire, on peut créer peut-être, en s'appuyant sur la structure de la Maison de la Culture, une structure qui soit propice à cette scène française, à cette scène française peut-être aussi européenne. Et bien lui offrir des moyens et lui donner un moyen de se faire entendre ailleurs que sur les scènes de concert. Et en 86, Label Bleu arrive, est créé, s'appuie sur la Maison de la Culture dans une bonne entente et également financière avec Label Bleu à l'époque est autonome d'un point de vue juridique, mais son existence est étroitement liée en tout cas à l'activité de la Maison de la Culture. Donc on se retrouve dans les années 80, fin des années 80, avec un label de jazz qui commence à avoir une vraie notoriété, et puis un label de jazz à côté qui, pareil, va commencer à faire vivre et va faire émerger toute une scène, toute une scène. Alors dès le début, on va retrouver des artistes qui sont, pour le coup, eux, très identifiés. On a Henri Texier, qui est l'artiste, je dirais historique de Label
Ouais.
Bleu, hein, puisque depuis 86, il n'en est jamais bougé, il n'en a jamais bougé, il est toujours avec nous, on travaille toujours avec Henri, on s'appelle régulièrement, on a une relation comme ça artistique très importante, très riche. Et puis il y a eu des artistes comme Louis Clavis, Michel Portal, Aldo Romano, à l'époque Daniel Goyon aussi, qui avait un pianiste de jazz, voilà, qui avait une vraie production, qui travaillait beaucoup à côté d'artistes comme Claude Nougaro aussi notamment. Voilà, donc des gens de cette génération qui ont trouvé en Label Bleu un moyen de faire exister et de faire distribuer et diffuser leur musique. Ensuite, il y a eu une deuxième phase dans les années 90 à cette maison. La maison de la culture en elle-même a fermé pendant 3 ans. Il y a eu nécessité depuis 66 de faire des travaux de rénovation, des travaux d'extension aussi. La maison de la culture s'est dotée d'un deuxième théâtre à l'intérieur. Il y avait une grande salle de plus de 1000 places. Il y avait un cinéma qui servait à la fois de cinéma et de petite salle de spectacle. Et donc, dans les années 90, on dit on va donner un vrai deuxième théâtre à la Maison de la Culture, ce qu'on a fait. Et le cinéma qui servait à plusieurs choses est devenu un vrai cinéma en tant que tel, le cinéma Orson Welles. Voilà. Donc ça, c'est début des années 90, Maison de la Culture. Et en même temps, côté label, le festival a une notoriété, le Label Bleu et ses artistes ont une notoriété. Et Michel Horier va aller chercher quelqu'un qui s'appelle Christian Mousset, qui était le créateur, fondateur du festival Musique Métis à Angoulême, en se disant que finalement le catalogue Label Bleu pouvait aussi très bien aller sur les musiques du monde. Il y avait un vrai essor à l'époque sur cette dimension artistique-là. Et Christian Mousset, qui connaissait parfaitement le réseau, les filières et les artistes de musique dites du monde, a permis au catalogue Label Bleu dans les années 86 d'avoir un vrai essor, d'avoir une vraie augmentation de son nombre de sorties avec des artistes d'Afrique, des Caraïbes, aussi beaucoup d'Afrique, d'artistes de La Réunion et de l'océan Indien également. Dans cette liste d'artistes, on retrouve évidemment le Super Ride Band, des artistes du Mali, Djeli Madi Toumkara. Et puis on va avoir une toute jeune chanteuse, tout d'un coup, venue de nulle part, qui s'appelle Rokia Traoré, et que Christian va aller accompagner. Il y aura un disque, il y aura 2 disques, et puis Rokia va littéralement exploser sur la scène internationale et fera de Label Bleu un des labels incontournables, non seulement du jazz, mais également des musiques du monde. Donc là, on est dans les années 90, il y a vraiment un boom qui s'opère, le marché du disque est plutôt prospère. Et il vit bien et Label Bleu est sur une dizaine, je crois 15 sorties par an à peu près, une vraie équipe constituée. Et la Maison de la Culture, elle, achève sa période de travaux et décide, dans cette phase de travaux, de donner à Label Bleu ce studio d'enregistrement dans lequel on est, le studio Gil Evans, des bureaux, une infrastructure et vraiment un soutien logistique considérable. Donc là, nous, on est aujourd'hui dans cette partie du bâtiment qui n'existait pas avant 90, qui a été vraiment rajoutée, avec ce magnifique studio, ses deux cabines, sa régie technique, etc. Et le studio va devenir le lieu où vont se faire aussi les productions du label. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas forcément enregistrées ici par le passé. Je crois qu'il y avait un petit studio dans ce qui était anciennement la Maison de la Culture, mais les productions vont se faire ici, avec le concours d'un ingénieur du son, Philippe Tessier-Ducrot, et le catalogue va s'élargir en partant du son d'Amiens, puisqu'on peut le dire, un studio c'est un son, et le studio Gil Evans a un son, une acoustique particulière. Il y a un volume ici, donc c'est ce qui, dans le métier, on dit qu'il y a la room, il y a le son, il y a la pièce qui fait sonner, qui fait la musique. Donc Amiens va pouvoir avoir cet outil supplémentaire. Et puis le label, voilà, va poursuivre son aventure, la Maison de la Culture également, dans deux chemins qui se croisent régulièrement, notamment grâce au festival. Voilà. Voilà pour l'histoire. Après, je peux
Ok.
aller plus loin dans les années 2000, c'est-à-dire qu'en 2000, la Maison de la Culture et surtout Label Bleu, on va dire, arrive à un moment où, ça, c'est pas propre à Label Bleu, c'est propre à tout le monde de la musique. Il y a une révolution qui va s'opérer avec le numérique, avec le téléchargement, avec le changement des modes d'écoute. Et tout ça va littéralement impacter les labels en France. Label Bleu ne sera pas exclu de ce mouvement. Crise du disque, crise des ventes du disque, remaniement. Label Bleu ne sait pas. Il y a eu un moment quand même où Label Bleu était un peu, était véritablement en difficulté financière vis-à-vis de ses artistes, des sorties. Et puis là, il s'est passé quelque chose d'assez courageux, je dirais, de la part de la Maison de la Culture. C'était de prendre la décision d'intégrer littéralement Label Bleu. C'est-à-dire que c'était une structure juridique indépendante, à part entière. Et la Maison de la Culture va dire on va conserver le catalogue, on va essayer de conserver une activité de Label Bleu, continuer de le faire vivre, et on va intégrer juridiquement, comptablement, l'activité de Label Bleu. Donc, depuis 2007, je crois que c'est ça la date, Label Bleu est devenu un service à part entière de la Maison de la Culture. C'est-à-dire que cette maison qui accueille des spectacles, qui produit des spectacles, qui produit des expositions, du cinéma, eh bien, elle va aussi avoir dans ses activités la production phonographique, l'édition phonographique, puisque Label Bleu est aussi éditeur d'une partie de son catalogue. En attendant que se mette en place un nouveau modèle économique, je dirais, lié à la crise du disque, etc., et l'arrivée du streaming, eh bien, la Maison de la Culture fera vivre Label Bleu et en tant que tel dans ses activités. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que le personnel Label Bleu aujourd'hui, c'est deux personnes, c'est Fabienne Octo qui travaille avec moi sur les productions, sur le catalogue, sur l'administration du catalogue, et donc moi-même. Sur la direction de production, sur le relationnel aux artistes, la distribution, nous sommes des salariés de la Maison de la Culture. Et dans le cadre de nos activités pour la Maison de la Culture, nous développons les activités de Label Bleu.
Okay.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Avant de continuer cette délicieuse interview, je vous propose d'écouter La Vita è Bella, reprise du thème principal du délicieux film Life is Beautiful par David Krakauer, sorti sur son album de reprise justement de films de cinéma The Big Picture en 2015 sur bien sûr le Label Bleu.
Il y a un ralentissement des productions, mais il y a quand même 4, 5 disques qui sortent par an à peu près.
Oui, il y a un ralentissement des productions et oui, 4-5 sorties par an.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal, et puis des fidélités avec des artistes, oui. et une envie conservée d'avoir de tracer aussi un chemin dans cette. Un chemin esthétique, artistique, une envie d'accompagner certains artistes plutôt que d'autres aussi dans le label. On a. Alors, j'ai pas parlé de quelque chose qui est la voix Bleu Électrique aussi, qui était. À un moment donné, dans les années 90-2000, une orientation plus électrique qui avait été amenée dans le label, avec des artistes majeurs, hein, des artistes très importants, comme Pierce Faccini notamment à l'époque. Et, là, ça ne me revient pas comme ça, mais il y a quand même une partie du catalogue qui So Cold, Dewood, des artistes comme ça qui étaient plus dans une veine électrique, plus rock, entre guillemets. Ouais. Voilà. Qui s'est un peu atténué, voilà, au fil et à mesure des années depuis que la Maison de la Culture a repris la Belle Bleue. Mais en tout cas, il y a quand même une recherche esthétique ici. On essaie d'aller chercher quand même des artistes qui nous intéressent, avec lesquels il y a une fibre aussi de quelque chose qui peut se marier avec l'objectif qu'on défend dans la Maison de la Culture.
Je vous propose d'écouter le morceau Koru de Seydou Boro, sorti sur son album Horon en 2016, sur le label bleu bien sûr, un délicieux morceau world d'origine africaine. Régalez-vous.
Wanga toto, kuia toto maluneni na. Kuia toto, wanga toto, kuia toto maluneni na.
Et don't say ka borone fa e don't say ka korone ta iba fe ita fe telelo ye pia tutto wanga tutto pia tutto maluneni no pia tutto wanga tutto pia tutto maluneni no
parler de la direction artistique du label, puisque clairement on est sur de la musique bon, jazz, musique du monde aussi, on parle notamment, enfin, je pense à Henri Texier qui fait du jazz, mais qui a fait beaucoup d'albums ouverts sur le monde où il va s'inspirer de plein de musique du monde, etc. Mais à chaque fois on retrouve, bah, comme tu dis, il n'y a pas d'électrique, c'est des formations jazz plutôt acoustiques, mais j'ai très rarement, voire peu voire pas de musique avec des synthétiseurs, de musique assistée par ordinateur, de loop, tout ce qu'on peut retrouver dans le jazz contemporain aujourd'hui.
On en retrouve, mais c'est vrai que la ligne artistique s'est recentrée depuis 2006 sur le jazz. On a fait quelques incursions dans les musiques du monde avec Sédou Bourreau, Mamadou Bari, Djeli Madi Tunkara, mais c'est vrai qu'on a recentré quand même là depuis quelques temps sur le jazz. Alors l'électronique dont tu parles, elle fait partie du jazz d'aujourd'hui quand même, malgré tout, puisque quand on écoute des artistes comme Roberto Negro, et Jidru, il y a quand même une ouverture sur des sons plus électriques, guitare électrique, basse électrique, les claviers, les synthés, les Moog, etc., etc. Mais c'est vrai que dans la définition un peu stricte qu'on pourrait s'en faire, c'est vrai qu'on est revenu à une veine très jazz aujourd'hui, voilà. Qui va de Édouard Perrault au trio complètement acoustique à des choses plus sophistiquées comme Roberto Negro par exemple, ce qu'il peut faire avec Émile Parisien.
Blow the storm through the night, I know for sure songs we'll find in our dreams make us grow. Je vois des ombres qui dansent.
penser à moi et m'invite à les rejoindre. Je m'envole, je suis transporté. Et j'entends distinctement le chant des sages.
Nous écoutions tout de suite le morceau The Thong of Wisdom de J. Drew, sorti sur son album Phantom, bien entendu sur le label bleu en 2023.
J'aimerais parler un peu de toi aussi, Benoît. Est-ce que tu peux décrire pour tous les profanes comme moi quel est le métier de directeur de production au sein d'un label de musique, tout simplement?
Alors, moi, je pense que je l'ai appris un peu en arrivant ici, déjà, hein, pour dire, et je l'apprends tous les jours encore, franchement. Je me nourris aussi de ce que je grappille à droite, à gauche dans le métier. La première étape, je pense, dans le métier, c'est la connexion avec les artistes, puisque je passe quand même beaucoup de temps à échanger avec les artistes, Henri Texier, Edouard Perrault. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, il y a cette nécessité du dialogue et de l'échange sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire et avec qui on va le faire. Voilà. Et dans ce monde du jazz, qui est quand même une musique de niche, hein, qui est une musique très, très sectorisée, on va dire, d'un point de vue purement commercial, évidemment, il faut avoir de l'ambition tout en restant raisonnable sur qui est-ce qu'on touche vraiment, où est-ce qu'on va pouvoir le jouer, est-ce que c'est opportun de le faire à ce moment-là. Voilà. Donc il y a une partie de dialogue qui est très importante avec les artistes. Après, il y a une partie de dialogue qui est très importante aussi avec notre réseau de prestataires, entre guillemets, puisque nous, on produit la musique, on produit le disque, mais après le disque, il faut Et la musique, il faut la mettre sur une plateforme de streaming, il faut la distribuer, il faut faire le vinyle, il faut le mettre en rayon. Et donc pour ça, on travaille avec des prestataires, un distributeur notamment, qui s'appelle L'Autre Distribution, qui est une société basée à Tours, et qui nous permet d'être présent sur l'ensemble des lieux de diffusion. Et évidemment, il faut qu'on soit en dialogue avec eux sur les conditions de cette diffusion, les lieux de cette diffusion, et quelque chose qui se fasse aussi dans une bonne harmonie artistique, puisque on pourrait très bien décider de travailler avec un distributeur qui ait moins le souci de la qualité de la musique qu'on produise, mais ça serait quand même dommage, parce que nous, on défend aussi des valeurs, je pense, au travers des musiques qu'on produit ici. Donc c'est mieux d'avoir un interlocuteur qui soit un peu dans la même ligne que nous, et avec L'Autre Distribution, ça, de ce côté-là, on s'est plutôt bien trouvé. Donc voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, et après, il faut aller chercher des moyens. Alors ici, on est sur un modèle très particulier, puisque en toute transparence, c'est vrai que le modèle économique de ce label est totalement unique, et il est spécifique à Amiens et à cette maison. Il repose énormément sur le financement de la Maison de la Culture et à sa capacité à pouvoir abonder sur l'amorce, je dirais, de production. Et ensuite, on est comme n'importe quel autre label, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller chercher des fonds à droite et à gauche, mais dans un espace très limité aujourd'hui, puisque nous sommes un établissement public et en tant que tel, évidemment, on ne peut pas prétendre à aller chercher des fonds comme un label associatif ou un label privé. Et ça peut s'entendre, ça peut se débattre, ça peut s'entendre. Voilà. Donc on est dans cette logique-là aussi. Ça veut dire aussi un travail administratif qui se fait beaucoup avec Fabienne Octo, ma collègue sur le dossier Label Bleu. Voilà, donc il y a beaucoup ça dans la direction de production ici, être en accord avec les artistes, parler avec eux, et puis voir les moyens qu'on met en face et comment on peut les accompagner. Sur 4-5 sorties, 4 sorties on va dire par an, je pense qu'on a un rythme de croisière qui est assez opérant,
oui.
Et qui me permet et nous permet d'être aussi présents sur le reste de nos activités, puisque comme je m'occupe aussi de programmation beaucoup ici sur le théâtre, la musique, la danse, le cirque, etc. Voilà, il faut aussi ne pas éparpiller trop les énergies. Donc sur ce rythme-là, on y arrive encore, je pense. Et on a un rythme de croisière qui est plutôt bien, voilà, avec nos artistes.
C'est l'heure de l'interlude musical avec Louve, sorti sur l'album Vermeil du groupe Rouge en 2024, sur le label bleu bien sûr.
Une question aussi sur le studio Gilles Evans, du coup, qui appartient à la Maison de la Culture, dont le label se sert pour les productions et les enregistrements de ces artistes. Mais est-ce que, et je pense que oui, le studio est ouvert aux artistes externes au label bleu, qui voudraient profiter de cette belle pièce, tout le matériel pour enregistrer?
Alors, on peut le louer, ouais. En fait, on peut le louer.
Simplement.
Et le studio a été quand même, pendant beaucoup d'années, à usage exclusif de la Belle Bleue, ouais. Et de la Maison de la Culture. Depuis quelques années, on essaie de faire entendre le message que ce studio peut accueillir des productions extérieures. Donc, on le fait surtout, là, depuis 2-3 ans, à développer, nouer des liens de fidélité avec certains ingénieurs du son, musiciens extérieurs, qui se trouvent être, mais c'est pas un hasard, issus de ce secteur du jazz ou des musiques instrumentales ou acoustiques. Mais on accueille maintenant aujourd'hui des locations ici et dans notre studio. Ça a demandé quelques investissements, des aménagements aussi, mais on commence à faire quelque chose de pas mal, je pense, ouais. Et là, de ce côté-là, on a beaucoup de potentiel, puisque c'est un grand studio qui peut intéresser évidemment beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de musiciens de la musique classique, par exemple, et de la musique contemporaine pourraient s'y intéresser. Comme tu le disais, c'est un studio résidentiel, c'est-à-dire qu'on vient ici, il y a 8 chambres à l'étage, on peut venir passer une semaine, on dort sur place, on n'est qu'à 1h30 de Paris... on est entre Lille, on n'est pas loin de Lille non plus, de la Belgique, de la Normandie, de Reims, mmh. On est un peu au milieu de plein de choses, dans une maison qui propose plein d'autres trucs aussi. Alors les musiciens qui viennent ici, ils s'immergent et puis parfois ils se disent tiens, mais ils vont manger au restaurant du théâtre et tout d'un coup ils croisent je sais pas quel comédien, danseur, et il y a des choses qui peuvent se passer ici, je pense qu'ils se passeraient pas non plus dans un autre studio. Et puis nous, on a cette capacité aussi de pouvoir échanger avec eux sur comment ils s'en sortent dans la diffusion ou d'amener autre chose, même si on n'est pas vraiment en lien de production avec eux, mais en tout cas, on a un dialogue un peu différent, je pense. On loue quelque chose, mais ce studio, il reste le studio dans une scène nationale, dans une maison de la culture. Voilà, c'est la valeur ajoutée.
Ouais, ouais. Bah, message du coup à tous les artistes
voilà.
Et qui nous écoutent.
Tout à fait.
Venez visiter le studio et pourquoi pas produire vos... Et c'est vrai que l'endroit est fabuleux. Et comme tu dis, c'est aussi le fait que ce soit au sein de la maison de la culture pour rencontrer... c'est très riche, quoi, en fait. Pour rencontrer d'autres personnes, d'autres artistes, etc.
Ouais. Tout à fait. Voilà, à côté, on n'est pas si loin de Paris, encore une fois. Et si on veut ne pas sortir du studio, on peut très bien rester s'enfermer ici, aller dormir au deuxième, redescendre pour enregistrer en plein milieu de la nuit. C'est possible.
Ça, c'est sympa, ça.
Bye.
Écoutions le morceau chez les Yeyeyes de Daniel Zimmerman, sorti sur son album L'homme à la tête de chou in Uruguay. Bien sûr, des variations sur la musique de Serge Gainsbourg, on l'aura reconnu. C'est un album sorti en 2022 sur le label bleu, bien sûr.
Avant de terminer cette interview, une question sur les prochaines sorties du label. Qu'est-ce qui est prévu dans les mois, les saisons à venir pour le label en termes musical?
Alors déjà, rappeler qu'on a sorti il y a pas si longtemps que ça un disque d'arrangement autour d'Eric Satie, qui est un disque un peu particulier pour nous, puisque Joan Mirand, qui est saxophoniste, compositeur, arrangeur, directeur musical, a réalisé un énorme travail de réécriture de certaines œuvres d'Eric Satie, dont on célèbre le centenaire de la mort cette année, en 25. Et il s'est passionné pour ce répertoire, il a été vraiment au noyau de sa musique, et il a réarrangé des œuvres pour un big band qu'il dirige depuis des années, qui s'appelle le Red Star Orchestra. Le Red Star Orchestra, c'est une petite référence au club de foot, le Red Star, mais, parce qu'ils viennent tous de là, mais...
De Saint-Denis.
De Saint-Denis, voilà, et des environs. Et donc il a réarrangé cette musique d'Eric Satie, il en a fait un répertoire à part entière pour le big band, donc avec des vraies orchestrations, d'orchestre, c'est absolument magnifique, le travail est léché, fourni, et puis il nous permet aussi de redécouvrir Satie d'une autre manière. Je pense que d'une manière un peu dada, mais comme il devait, comme Satie devait l'être en fait. Voilà. Donc on a ce disque autour de Satie qui est sorti au mois de novembre, qui s'appelle La Marche du Chien Noir. Alors La Marche du Chien Noir, en plus c'est pas qu'un disque puisqu'il y a un film. Et quand on voit le concert, on voit le film. Et quand on achète le disque, on a le film. Et quand on voilà. Donc il y a tout un travail comme ça qui a été fait où on peut voir Satie déambuler dans Paris entre Montmartre, Châtelet et chez lui à Arcueil. Donc ça, c'était un gros projet auquel on tient beaucoup, avec un magnifique travail de Johan Mirand là-dessus, qu'on a pu défendre sur scène à l'automne, et qui est très important pour nous. Et ça, c'est 25 musiciens dans le studio. C'est aussi une belle mise en valeur du bâtiment ici, c'est qu'on a, on a plein de musiciens qui arrivent ici, on peut tout enregistrer en même temps. Voilà. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, on a sorti le dernier disque d'Edouard Perrault en trio. Édouard Perrault, c'est un batteur, c'est un compositeur, un arrangeur, c'est quelqu'un qui fait une vraie musique jazz pure, dans les purs, véritablement, très naturaliste presque, j'ai envie de dire. Il est photographe aussi, et dans sa musique, je pense qu'on voit son inspiration de photographe, c'est-à-dire quelque chose de très contemplatif, de très mélodique, de très lyrique. Et donc Edouard, on est au troisième disque avec lui, avec son trio, ça s'appelle De l'ombre à l'aube, et on l'a sorti au mois de décembre, et donc on continue d'accompagner encore ce projet, et je l'espère pour de nombreux mois. Dans ce qui se profile en 2025, l'année en cours, on travaille avec quelqu'un qui s'appelle Daniel Zimmermann, qui est un tromboniste qu'on a pu écouter dans ses projets en quartet avec La Belle Bleue, dans un premier disque qu'il avait fait il y a quelques années, mais aussi Daniel, c'est quelqu'un qui est très sollicité et qu'on a pu écouter soit avec l'ONJ, avec Fred Morin, l'Orchestre National de Jazz, soit dans le Sacre du Tympan. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement riche dans ce qu'il peut amener aux formations musicales. Et là, avec Daniel, on a enregistré un disque au mois de janvier, avec Élise Blanchard à la basse, Pierre Durand toujours à la guitare, Julien Charles à la batterie. Il y aura quelques featuring, je pense qu'on aura Sanseverino qui reviendra chanter une chanson, il devrait y avoir Tomate Pourquerie sur un solo, et donc le prochain disque de Daniel qui s'appellera Snapshot, je pense que nous le sortirons à l'automne si tout va bien, en tout cas c'est en bonne voie, il est actuellement en mixage.
Super.
On aura un nouvel album de Jidru. Alors Jidru, pour nous, c'est un artiste aussi un peu spécial, puisque Jidru est amiénois, il est flûtiste, et il a grandi, il est né à Amiens, il a un vrai réseau ici, et ça fait déjà trois albums qu'on fait avec lui. Il est revenu travailler au studio, ils ont réenregistré avec ses complices de toujours, que sont Pierre-François Blanchard au clavier, Mathieu Penaud à la batterie, et Sandra Nkake au chant et aux divers instruments. Et donc ils viennent travailler là très souvent, on est toujours ravis de les avoir. Et donc il y aura un album qui s'appelle Poems of Dance, je crois que c'est ça, qu'on sortira également à l'automne. En fait, on a trois sorties à l'automne. Et Poems of Dance de Jidru, ça sera un album sur la joie, je crois. Et Jérôme nous a dit, c'est bien en ces moments difficiles d'avoir des choses heureuses, qu'on se marre un peu et qu'on ait des moments comme ça de... plutôt de bonheur, donc c'est le thème de l'album. C'est marrant parce que je pense que Daniel Zimmermann avec son trombone semble le dire, en fait c'est un peu ça aussi l'envie, je crois, c'est d'avoir un peu de lumière dans ce monde de sauvage. Et puis il y a un troisième projet qui va bientôt débuter aussi, c'est avec Roberto Negro. Roberto, ce pianiste dont le jazz est empreinte autant à la musique contemporaine qu'au jazz traditionnel et qu'à la musique classique. Quand je l'écoute, je pense autant à Debussy qu'à Keith Jarrett ou Brad Mehldau. Il y a quelque chose chez lui assez extrêmement flatteur de ma part, mais je le crois. Je pense que Roberto est vraiment à la croisée de beaucoup de choses dans le piano jazz aujourd'hui. Il a fait deux premiers albums en solo. Ça sera un troisième album ici en solo. Piano préparé, je pense, mais piano très acoustique, je crois, pour ce troisième volet. Il a fait chez nous des choses magnifiques avec Émile Parisien et Michele Rabbia et Valentin Secaldi, un artiste vraiment incontournable de la scène, et du disque en jazz aujourd'hui. Donc il viendra enregistrer là. Et puis évidemment, on sortira le disque et puis on accueillera le concert. C'est aussi l'autre avantage de la Belle Bleue, de la Maison de la Culture, c'est que les artistes viennent là, ils travaillent, ils enregistrent et puis ils se produisent devant notre public. Voilà. Donc Daniel viendra jouer en décembre. Edouard, je pense qu'il jouera au mois de mars l'année prochaine, et Roberto aussi. Voilà.
Ok, donc les trois belles sorties à venir pour le Label Bleu à l'automne.
À l'automne, ouais. Automne-hiver.
Qu'on loupera pas dans mon jazz, qu'on passera avec grand plaisir.
Après, il y a toujours Henri Texier quelque part. Hein,
oui.
Il va revenir. Il y aura peut-être David Krakauer aussi l'année prochaine. Voilà, il y a des liens comme ça, des fidélités.
Thank you.
Vous êtes bien dans mon jazz sur Radio Campus Paris et vous écoutiez le morceau spectaculaire Gymnopédie de Johan Miran and the Red Star Orchestra, sorti sur l'album La Marche du Chien Noir en hommage à Satie en 2024 sur le label bleu.
Avant de terminer, je voulais parler un peu d'Henri Texier, qui est, comme tu disais tout à l'heure, un peu l'égérie du label bleu ici. Et moi de mon histoire de la découverte du jazz, ça a été quelqu'un aussi d'important. Je ne sais plus comment je l'ai découvert, si j'ai d'abord découvert Henri Texier ou d'abord via Bonobo, donc un artiste de
qui avait samplé son titre Les Labas.
Les Labas.
Qui n'est pas un disque label bleu.
Puisqu'Henri
a fait 3 disques avant d'arriver chez la Label
Eurodisc, je crois.
Chez Jean-Marie Salani. Et donc, il y avait Amir, il y avait Varek, et puis je ne sais plus quel est le troisième. Ouais.
Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Henri Texier avec ces albums-là, Amir, Varek, Le Singe et la. Le Singe, Le Vieux et Le Singe, je ne sais plus c'est quoi. Enfin, plein d'albums comme ça. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai même fait un remix, je l'ai passé tout à l'heure, un remix de Amir. Quand je faisais un peu de musique sur ordinateur, un remix de Amir en musique électronique, très sympa. Mais donc voilà, c'est quelqu'un qui a été important dans ma découverte du jazz. J'aime beaucoup sa façon de faire, de la contrebasse et ses inspirations, etc. Et je voulais savoir juste le personnage Henri Texier, est-ce que c'est quelqu'un. Comment il est, quoi? Comment est cette personne? Je serais curieux de le rencontrer une fois.
Mais... Henri Texier, c'est un personnage qui est comme tous les musiciens en fait, qui la musique se nourrit de son personnage, se nourrit de ses rencontres, se nourrit de tout ce qui a jalonné sa vie. Henri, il est construit par l'explosion du jazz dans le Paris des années 60. Des artistes américains qui vont débouler tous à Paris et qui vont chercher des gens pour jouer. Et tout d'un coup, sur leur route, il y aura aussi Henri Texier à un moment donné, Dexter Gordon, des gens comme ça qui vont, quand ils reviendront à Paris, appelleront Henri pour les gigs, pour les concerts. Et donc Henri va se construire là-dessus. Et Henri, c'est un musicien presque autodidacte de la contrebasse jazz. Je crois qu'il avait fait un peu de piano avant, mais... La contrebasse, le jazz, c'est quelque chose qu'il va faire lui-même, en réalité, en écoutant des disques, en jouant avec ses copains, avec ses amis, dans vraiment un truc de passionné complètement, quoi. Et puis, au fur et à mesure des années, il va y avoir le jazz plus électrique, le jazz, le free jazz, et puis cette dernière phase, je dirais, des disques dont on vient de parler, où tout seul, eh bien, il va façonner sa musique, il va façonner son personnage... Il y a quand même des albums où il fait tous les instruments, où il enregistre tout seul complètement, et il y a des musiques fabuleuses là-dedans. Vraiment, j'ai des titres là comme ça, Mektoub, qui sont vraiment des titres incroyables, ou même il chante, il y a la voix.
Ouais, les voyages où il chante justement, où il double, triple les voix et ça part en chœur,
où il va apprendre à jouer du oud exprès pour ses disques, etc. Et après, dans les années 80, un retour peut-être à un jazz. Plus illustratif dans le sens où il va amener plein d'images, des lignes de basse un peu épurées et puis un sens de la mélodie incroyable. Et tout ça, quand tu me demandes c'est qui Henri Texier aujourd'hui, Henri Texier c'est la somme de tout ça. C'est la somme de quelqu'un qui a traversé des époques, c'est quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui et qui est aussi vif d'esprit, je pense, qu'avant. Et qui a traversé tout ça. Il a traversé plusieurs mondes. Il a traversé cette révolution et puis cette appropriation de quelque chose. Il a traversé aussi des périodes où il va devenir lui-même la référence d'autres musiciens. Et il est à la croisée de tout ça. Et je pense que ce qui caractérise ces musiciens qui durent aussi dans le temps, qui continuent d'enregistrer, parce qu'avec Henri, on enregistre à peu près tous les 2 ans... c'est cette curiosité, c'est cette envie de toujours revenir à l'instrument, de toujours travailler. Hier, je l'appelle, il était en train de travailler sa contrebasse. Il y a toujours ce lien très très fort à son instrument, à cette chose un peu essentielle qui est on est des artisans, c'est-à-dire qu'on travaille, on fait ça, je prends ma basse, je fais mon training aujourd'hui, et puis je vais aller chercher mes copains, on va faire un album, on va faire de la musique, et puis voilà. Henri, il est comme ça, il a ce rapport simple aux choses, en fait. Ouais.
Ok.
Avec une véritable exigence, en même temps, qui est que pour en arriver là, il faut se donner du mal.
Bah moi, c'est dans un, merci déjà pour ton retour sur Henri, Henri Texier. Moi, c'est un de mes projets de le voir en concert. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc ce sera peut-être à la Maison de la Culture Damien que je le ferai, parce que j'imagine qu'il s'y produit régulièrement, cas à chaque
sortie. Oui, l'année prochaine, tu seras là, je pense. Ouais. Bah 60 voilà. ans. Normalement, on fête ses 60 ans de carrière, et puis ça tombe en même moment que nous fêtons les 60 ans de la Maison de la Culture Damien.
Waouh!
Voilà.
Ah ouais, impressionnant.
Et 40 ans de la Belle Bleue.
40 ans de la Belle Bleue, ouais. Mmh. Hey, j'ai regardé le premier, enfin un des premiers albums que vous avez sorti. C'était Henri Texier en 87, je crois. Paris-Batignolles, ouais. Mmh. Paris-Batignolles,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et j'ai vu d'ailleurs dans ces années-là, j'ai vu du Lyconite. Oui. Je sais pas, c'était en production aussi?
Oui, c'était en production, ouais. Tout à fait. Alors je crois que le premier disque sorti au label. Alors, peut-être Fabienne serait là, elle me corrigerait, mais il me semble que c'est plutôt Daniel Goyon qu'on avait dû enregistrer et sortir, Daniel Goyon. Et puis ensuite, il y a eu les Batignolles, il y a eu Jean-Paul Séléa aussi, il y a eu des gens comme ça. Et Henri, lui, il a eu des invités vraiment à chaque fois, il allait chercher des gens. Puis Henri, c'est un passeur aussi. Tu me dis que c'est qui Henri, c'est quelqu'un qui transmet, qui passe la flamme. Mmh. C'est quelqu'un qui va toujours chercher dans la nouvelle génération. Il a joué avec Armel Dupas, là il joue avec Gauthier Garrig depuis quelques années. Alors Gauthier explose littéralement sur les scènes aujourd'hui. Ses projets Flash Pig, etc., mais son projet solo, mais il y a aussi Henri Texier dans quelque part là-dedans, dans cette histoire-là. Je pense à Boyan Z. Voilà, Boyan Z dans le monde du jazz aujourd'hui, quel personnage que c'est, le pianiste claviériste que c'est aujourd'hui, Boyan Z. C'est des gens qui ont croisé Henri Texier à un moment donné dans leur vie. Hein. Julien Louraud, voilà, tous ces gens-là, à un moment donné, il y a eu ce croisement Label Bleu Henri Texier, Studio Amiens, et ça a construit tous ces artistes-là.
Ok.
Et moi, aujourd'hui, dans les artistes que j'accueille ici en programmation, à un moment donné, ils vont me parler d'Henri Texier, Indian Swick, ou quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Benoît pour l'accueil au sein du Label Bleu, au sein de ce magnifique studio Gilles Evans à Amiens.
Merci à toi.
C'était super intéressant. Et puis, bah écoute, je te souhaite une très bonne continuation avec les sorties qui ont été annoncées pour cette année. Et puis, chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Vous étiez bien dans Mon Jazz. On était au Label Bleu à la Maison de la Culture d'Amiens. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour une nouvelle émission, et n'hésitez pas à retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Campus Paris. Merci et bonne soirée à tous, salut. Et bien sûr, on se quitte sur un morceau de fête avec Lolo de Bamba Wasulu Groove, sorti sur l'album Farima en 2015 sur le Label Bleu bien sûr. Bonne écoute. Bye.
Lolo nena sinya na suno.